L'horaire d'aujourd'hui sera un peu particulier parce que nous avons la messe à 11h15, comme vous le savez. Donc, nous allons prendre à peu près 1h15 pour parler du phénomène érotique. Puis après, on aura une petite séquence, disons, de 45 minutes, 50 minutes autour de la question du sport. Voilà. Relativement à ce que nous avons dit hier, on a parlé de phénomènes saturés, comme caractéristique de cette donation des phénomènes qui viennent au-devant de nous, ce que Jean-Luc a appelé l'anamorphose. Anamorphose, ça veut dire que ce n'est pas nous qui imposons nos formes, c'est que la morphose, si vous voulez, est renversée. On n'est pas dans un anthropomorphisme, c'est plutôt la chose tout d'un coup qui commande et qui exige de nous une forme de transformation, d'attention. On a parlé d'incident, hein, et donc quelque chose qui est comme aussi même une douce effraction, parce qu'il n'y a pas forcément violence, enfin c'est une effraction en tout cas. Et il est évident que de manière emblématique, cela se joue dans l'éros. Je suis un professeur de systématique fichtéenne, et voilà que tout d'un coup, j'aperçois, sortant de mon cours, une jolie jeune femme. Et là, j'ai beau être systématicien autant que possible, voilà que quelque chose m'advient. Je tombe de ma chair. Et ma chair sans œufs vibre de manière spéciale. Et là, c'est l'irruption de quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, moi qui avais gagné toute mon honorabilité universitaire dans l'étude de Fichte, de l'ego transcendantal. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il est évident que c'est ça sans doute ce qui pousse de toute façon vers le phénomène érotique. Ma question c'est, est-ce que le phénomène érotique est un cas de la phénoménalité en tant que donnée, ou alors est-ce que finalement l'amour, l'éros n'est pas l'arrière-plan de toute donation? C'est-à-dire, hein, je reprends, hein, vous connaissez la fin de la Divine Comédie, hein, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Est-ce que finalement, expérimenter le réel comme donation, voir que la donation est première, même antérieure à l'étang, est-ce que ça n'est pas dire que c'est un éros qui est à l'arrière-plan de toute chose, un amour qui est à l'arrière-plan de toute chose, et que même la connaissance n'entre vraiment dans des profondeurs, on pourrait même dire par-delà la métaphysique, en tout cas la métaphysique classique, qu'en étant une connaissance amoureuse ou érotique.
Oui, on peut sûrement dire des choses comme ça, j'accepterais, mais le phénomène érotique a cette particularité quand même par rapport à la donation qui rend, qui fait surgir les autres phénomènes. C'est que, à la fin des temps donnés, j'annonce d'ailleurs la couleur en disant que que nous avions jusqu'alors étudié le rapport entre la donation du phénomène par lui-même et la forme de l'ego qui pouvait y répondre et recevoir. Donc le caractère, si je puis dire, d'attributaire de l'ego, ce que j'appelle la donnée. Donc le donné et la donnée. Et il restait un problème bien particulier. Que se passerait-il si la donnée, au lieu de recevoir un phénomène dans le monde, qui lui advient, saturé ou non, bon, recevait en fait de donner un autre à donner. Comment décrire la situation quand ce qui est donné à la donnée est un autre à donner. C'est ça mon point de départ. Car formellement, il restait à étudier ce cas-là. Quand ce qui advient, c'est un autre à donner. Alors, là, il y a plusieurs remarques que je me suis faites immédiatement. La première, c'est ce que j'appelle la réduction érotique, qui vient d'être évoquée de manière un peu brutale par Fabrice. La réduction érotique, situation tout à fait étrange. C'est une réduction phénoménologique d'un type particulier. C'est une réduction dans laquelle l'espace, le temps et la subjectivité sont modifiés. Normalement, je suis le centre de mon monde. C'est-à-dire, le centre, c'est moi, puis les choses, les personnes sont plus ou moins éloignées de moi. C'est inévitable. On a un monde autour de soi, un Umwelt, dont on est le centre par définition phénoménologique, et tout le monde est d'accord là-dessus. Dans la réduction érotique, je ne suis plus le centre de mon Umwelt. C'est-à-dire, c'est l'autre qui devient le centre. C'est très étrange. Situation dans laquelle je peux dire que je ne sais plus où je suis si je ne sais pas où se trouve l'autre qui est devenu le centre. Avec cette situation, par exemple, normalement, quand je voyage, disons, dans mon cas, de Paris à Chicago, quand j'arrive à Chicago, je suis ici. Et Paris est là-bas. Bon, bah, en situation érotique, la personne qui se trouve à Paris est le lieu de l'ici, et moi je suis seulement là-bas, loin du centre. Parce que le centre n'est pas moi. Donc c'est le rapport à l'autre, à l'autrui, qui définit le centre de l'Umwelt. Donc je suis loin de chez moi, ce qui est faux, puisque je suis bien entendu à l'endroit où je loge, où c'est prévu comme ça, tout est organisé pour que ce soit le centre. Ben, je suis loin du centre parce que le centre est resté à Paris. Et alors pour le temps, c'est pareil. Normalement, il y a un privilège du présent, non seulement parce que, comme on dit, seul le présent est vraiment réel, mais aussi le fait que le présent, il est ce qui se définit par rapport à moi, le présent par rapport à moi. Et dans la situation de la réduction érotique, je peux dire, par exemple, ben, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Alors que c'est faux, il s'est passé des tas de choses, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu des tas de gens, j'ai été très occupé, etc. Il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu de communication avec le centre. Donc, il n'y avait pas de présent parce que l'autre n'était pas là. Et alors, on peut varier, j'essaie de décrire plus dans le détail, sur inversement. Et le résultat, c'est que on est dans une situation où on inverse le Kant. Pour Kant, évidemment, l'espace et le temps sont centrés sur le jeu, ce qui est juste. Et ici, c'est ce qui décentre le jeu, au point que le jeu lui-même, troisième point, le jeu lui-même ne dépend pas de lui. C'est-à-dire, l'autre est plus lui-même que lui-même, en ce sens extrêmement précis, c'est que le jeu ne prend possession de lui-même que si l'autre le lui donne. C'est-à-dire, tant que l'autre ne vous a pas dit « je vous aime », ben, vous ne savez pas exactement ni où vous êtes, ni si vous êtes. Et votre subjectivité, la subjectivité en principe, elle peut, cogito, en quelque manière, s'assurer d'elle-même. La subjectivité peut s'assurer d'elle-même. Dans la réduction érotique, la subjectivité ne peut pas s'assurer d'elle-même. Elle est essentiellement dépendante. Alors, il y a donc une nouvelle définition du monde et de l'expérience dans le cadre de la réduction érotique. Et on y entre, quand on y entre, on le voit pas très bien, quand on en sort, on le voit aussi. Ce sont deux manières de se comporter vis-à-vis du monde. Quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? C'est quand on dit à son meilleur ami, oh non, je ne suis pas amoureux. Non, non, non. Je contrôle encore les choses. Quand vous dites ça, c'est fini. Vous y êtes. Bon, alors, je ferme cette parenthèse. Donc, il faut d'abord comprendre que ce que j'appelle la réduction érotique est une forme de réduction. Comme il y a une réduction éthique, une réduction transcendantale, etc. Une réduction à la chair.
Alors, vous pouvez préciser ce qu'est une réduction, parce que je pense que les étudiants qui ne sont pas familiers avec la phénoménologie...
Je ne peux pas, c'est un peu trop compliqué.
alors, en deux mots.
Une réduction, c'est... Dans l'expérience, les gens qui sont empiristes, pour qui il n'y a pas de problème, sont des gens qui s'imaginent que tout vient de l'extérieur, de l'expérience sensible, et qui ne voient pas que dans l'expérience sensible, dans ce qu'ils considèrent comme le résultat de l'expérience sensible, beaucoup de choses en fait ne sont pas données, elles sont inférées, imaginées, présupposées. La réduction va essayer de faire le tri là-dedans pour voir ce qui est effectivement donné. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a plus qui est donné que ce que l'on croit. Prenons un exemple très précis d'une réduction simple, une réduction éidétique. Quand je perçois le fauteuil, là, le fauteuil en bois, ou en plastique, enfin, ou à mixer les deux. Bon, ce fauteuil, je vais dire que je vois qu'il est jaune, en gros. En fait, c'est juste, donc je perçois le jaune dans l'expérience. Mais si je fais une réduction éidétique, je vais percevoir que je perçois deux phénomènes, deux data sous le titre de jaune. Je vais recevoir le jaune réel de celui-ci, qui va être déformé par l'ombre, la lumière. Vous voyez, il y a un moment, il y a plus de lumière en dessous, il y a plus d'ombre, la forme fait que ce jaune n'est pas homogène. Donc je vais percevoir des jaunes, c'est juste. Mais je vais percevoir aussi, c'est ça, les eidos, dont on va dire une réduction éidétique, je vais percevoir l'essence du jaune. L'essence du jaune qui, en fait, n'est pas visible, parce qu'il n'y a pas un jaune ici, il y a une multiplicité de jaunes. Mais à partir de maintenant, je vais pouvoir avoir un concept du jaune, qui est différent du jaune que j'ai perçu. C'est-à-dire que je vais, par réduction, je vais voir qu'en fait, c'est à double fond, cette perception-là. Et non pas, en fait, il n'y a pas de jaune, il y a plusieurs jaunes, et puis en plus, il y a l'essence du jaune que je vais percevoir à cette occasion. Ça, c'est une réduction. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir définir le jaune. Parce que les couleurs sont indéfinissables. Et une des caractéristiques des couleurs, c'est que nous pouvons nous mettre d'accord sur les couleurs entre nous. Nous percevons... On va appeler ça jaune, tout le monde, on se comprend. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut définir le jaune. C'est-à-dire, si ça se trouve, on est toujours d'accord sur les couleurs, mais on ne voit pas la même chose. Et personne ne le saura jamais. Hein? Donc, quand je vois du bleu, nous sommes... Peut-être qu'en fait, ce que j'appelle bleu, vous, pour vous, c'est du rouge, mais on est d'accord, c'est toujours comme ça. Donc, on est daltonien ensemble, de la même façon, mais on ne sait pas ce qu'on perçoit. Bon, faire des réductions, c'est ça. C'est voir exactement ce qu'on perçoit. Et c'est pas si simple. Les empiristes sont des gens naïfs, parce qu'ils s'imaginent savoir ce qu'ils perçoivent. Mais non, pas du tout. Donc voilà. Donc la réduction érotique, quand on est amoureux, eh bien c'est la structure même de l'expérience qui est modifiée. C'est pour ça qu'il y a un décalage. On est, bon, et il faut bien le concevoir comme ça. Alors, quand on est dans cette situation, l'autre n'est pas encore nécessairement vu, prévenu, actif. Donc, en un premier temps, c'est une relation qui peut être unilatérale. Donc il y a, je pense, des épisodes nécessaires au développement du phénomène érotique. Alors la première situation, c'est la situation où on se demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ? Il semble que c'est Johnny qui hurlait ça, non ? Hein, oui. Bon, l'idée fondamentale, c'est il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'aime. Vite. C'est la situation où on demande qu'on vous aime et on le demande à n'importe qui ou à tout le monde. Alors, j'ai fait une analyse pour montrer que c'était l'origine de la violence. C'est l'origine de la violence parce que je demande à être aimé à toute force. Et évidemment, en un premier temps, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Et je vais donc essayer de forcer l'autre à m'aimer, un autre, n'importe lequel à m'aimer. Et que j'y réussisse ou que je n'y réussisse pas, la plupart du temps, en un premier temps, je n'y réussis pas. Et je comprends assez vite que je fais beaucoup d'efforts pour qu'il m'aime, parce que précisément, il n'y a aucune raison pour qu'il m'aime. C'est-à-dire, l'entreprise de séduction, surtout si elle est bien faite, est quand même basée sur le fait qu'il n'y a aucune raison que l'autre spontanément m'aime, et c'est pour ça qu'il faut que j'essaie de le séduire. Et il y a un aveu dans l'entreprise même de séduction que je ne mérite pas d'être aimé. Et donc il y a un fond de déception vis-à-vis de soi-même dans l'entreprise même de séduction. Et oui, parce que si j'étais aimable spontanément, j'aurais nul besoin de séduire. Donc je séduis parce que je sais que je ne mérite pas d'être aimé. Et le paradoxe, c'est que quand je demande à être aimé, je veux que les autres m'aiment parce que moi je ne m'aime pas. Pas assez, pas vraiment. Ou même si je m'aime, ça ne me suffit pas à me justifier à mes propres yeux. Donc je demande à autrui de m'aimer parce que moi-même je ne m'aime pas. Alors si autrui persiste à ne pas m'aimer, je veux dire qu'il est un salaud, qu'il est un méchant. Mais il est un méchant parce qu'il a raison. Alors quand je suis en colère contre l'autre parce qu'il ne m'aime pas, en fait c'est une situation assez étrange parce que je veux être aimé par quelqu'un qui n'est pas aimable. C'est la même chose dans la jalousie. Quand vous êtes jaloux, vous dites quel ordure, il ne m'aime pas, c'est vraiment quelqu'un qui est en dessous de tout. Et puis vous voulez quand même l'aimer et qu'il vous aime. Donc normalement, s'il ne vous aime pas, s'il vous a trahi, vous devriez dire heureusement que je ne m'accroche pas, parce que tendance, c'est dramatique de s'accrocher à quelqu'un qui... Pourquoi vous faites le contraire ? Donc il y a dans la volonté d'être aimé à toute force une profonde haine de soi qui aboutit, qui peut aboutir logiquement à deux choses. Une guerre générale de moi contre tous ceux qui ne m'aiment pas et une guerre de moi contre moi-même qui mérite bien qu'on ne l'aime pas. Donc il y a une circularité et une prison autistique de la demande d'être aimé. Et ce qui peut conduire à de très nombreuses formes de violence. C'est pourquoi je ne suis pas tout entièrement convaincu que, par exemple, la rivalité mimétique soit la première origine de la violence. Moi, je pense que, non pas l'amour de soi, attention, hein, c'est pas l'amour de soi, l'égoïsme qui est la source de la violence, c'est le fait qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même et qu'on voudrait forcer autrui à vous aimer. C'est ça l'origine de la violence. On peut en discuter, il peut y avoir plusieurs origines, mais enfin... c'est-à-dire... Deuxièmement, alors, comment sort-on de cette situation que nous avons tous connue ? Enfin, peut-être pas vous, mais moi aussi. en comprenant que la question « Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ?» est une question qui ne peut pas avoir de réponse. Parce qu'elle présuppose que je puisse savoir si quelqu'un m'aime. Or, si on veut une certitude de ce type, elle est inaccessible. Parce que je ne sais jamais ce que veut l'autre, à supposer que lui-même le sache. Peut-être que l'autre m'aime vraiment sans le savoir. Peut-être qu'il ne m'aime pas tout en étant convaincu qu'il m'aime. Et de toute façon, je ne peux pas le savoir en prise directe, à supposer que lui le sache. Donc, cette question de la certitude d'être aimé comme condition pour que je commence à aimer, cette situation n'est jamais réalisable. Alors, que faut-il faire ? Il faut mettre entre parenthèses la question de savoir si l'autre m'aime. Le phénomène érotique commence quand on ne se pose pas la question de savoir si l'autre m'aime. Paradoxal, mais c'est comme ça. Le phénomène érotique, et c'est la grandeur de Don Juan, commence quand on décide qu'on va faire comme si on aimait. Et d'ailleurs, Don Juan est sans doute sincère au début. Don Juan est comme Dieu, il aime le premier avant qu'on ne l'aime. Simplement, il ne tient pas la distance. Dieu tient la distance. Mais Don Juan est le premier. Il fait comme s'il aimait. Et comme il le fait bien, l'autre peut le croire. Il arrive que l'autre le croit. Et c'est le moment où on substitue la première question « Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ?» Une deuxième question « Est-ce que je peux aimer le premier ?» Aimer, c'est aimer le premier. C'est d'ailleurs la seule forme de séduction qui a une chance de réussir. C'est de s'exposer. Alors, cette exposition fait l'amant. Le propre de l'amant, c'est la donnée qui fait le pas permettant de recevoir éventuellement un autre adonné. Donc l'amant, c'est... alors là, je remarque, quand Descartes définit l'ego, il dit que c'est une res qui pense, une res cogitans. Et il énumère les différentes modalités de la pensée. Donc il y a le doute, l'intelligence pure, l'intellect, la volonté, l'imagination et la sensation. Et quand le traducteur français, le duc de Luynes, traduit ça, il rajoute après la volonté, qui aime, c'est une chose qui aime ou qui est, qui n'aime pas. Descartes avait oublié ça. Ça, c'est caractéristique de la métaphysique. Pour elle, l'amour est un phénomène dérivé. Dans mon analyse, l'amour est un phénomène premier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ego ? C'est d'abord essentiellement ce qui peut aimer et ne pas aimer. Et donc, le vrai ego, l'ego radical, l'ego qui cogite vraiment, c'est Don Juan. Ou Dieu qui nous aime le premier. C'est la forme fondamentale de l'égoïté, si je puis dire. Alors, c'est seulement dans ces conditions que la question de la chair, de l'érotisme au sens étroit du terme, se pose. Car ici, il faut faire une analyse... Donc la situation érotique précède l'érotisme charnel et le rend possible. Quand on passe directement à l'érotisme charnel sans avoir entré dans la réduction érotique et passé de la première question à la deuxième, on a la pornographie dans le meilleur des cas, enfin la prostitution. C'est quand même beaucoup moins drôle. Que se passe-t-il quand la chair intervient ? Alors, premièrement, ce n'est jamais le corps qui intervient, c'est toujours la chair. La différence entre le corps et la chair est bien connue. La table, c'est un corps physique. Et pour autant que je peux dormir sur la table, j'ai un corps physique qui est, si je puis dire, comparable à la table. Mais la chair, c'est le fait que je me sente moi-même quand je sens quelque chose d'autre. c'est-à-dire je me sens, comme au sens on dit je me sens bien, je me sens pas bien, c'est exactement ça, c'est le fait qu'il y a une partie de l'espace qui est moi. Et cette partie de l'espace, ça n'est pas une partie que je sens, je peux sentir toutes les parties de l'espace, mais la partie de l'espace par laquelle je sens est aussi une partie de l'espace non seulement que je sens, parce que je sens que je sens, mais où je me ressens moi-même, où je m'éprouve moi-même. Alors, que se passe-t-il quand la chair intervient ? Alors, j'ai mis un certain temps à comprendre pourquoi la chair s'excitait. Pourquoi est-ce que ma chair s'excite quand elle est en rapport avec une autre chair ? C'est-à-dire tend à s'étendre, à s'avancer. Étrange. J'ai trouvé au bout d'un certain temps. Lorsque je sens, c'est-à-dire ma chair, sent ce qui n'est pas une chair, c'est-à-dire un corps physique. L'extériorité se manifeste par la résistance de ce corps physique à ma chair. C'est-à-dire, si j'appuie trop fort, je me fais mal, quoi, d'autres termes. Donc, le monde extérieur se manifeste à moi par le fait que je ne peux pas y entrer. Il résiste et il repousse. C'est pourquoi il y a la chair est d'abord, s'expérimente, je m'expérimente moi-même, je me sens moi-même dans la chair, d'abord mal, parce que le monde extérieur, sauf exception, me résiste. Et j'éprouve toujours que le monde est clos, en un sens. Les choses sont fermées sur elles-mêmes et je ne peux pas m'y... Bon. Or, quand ma chair sent une autre chair et donc se ressent au contact d'une autre chair, il se passe, parfois, quand ce n'est pas un viol, que la chair d'en face... non seulement ne résiste pas à la mienne, mais ne demande pas mieux que de ne pas résister à la mienne. C'est-à-dire, pour la première fois, l'extérieur n'est pas une résistance. Dans la vie non érotique, l'extérieur est toujours une résistance. Dans la vie érotique, l'extérieur peut n'être pas une résistance. Et là, la machine est en route. Et c'est pour ça que c'est une situation tout à fait étrange. Et on comprend que ça nous fasse un certain effet, puisqu'il n'y a que là que ça arrive. Ou, la mère, l'enfant, enfin, des choses comme ça. La chair déploie à fond son privilège. Son privilège, c'est de ne pas résister. Alors, il y a dans la situation érotisme, de l'érotisme charnel, c'est-à-dire la montée à l'orgasme, pour appeler les choses par leur nom, que j'essaie de décrire, parce que vous savez, les philosophes, quand ils parlent de ça, Sartre, Lévinas, la caresse, le truc, soyons sérieux quand même. Il faut décrire les choses comme elles sont, la caresse, arrête. Donc j'ai décidé de décrire la chose d'une façon hard. Conceptuellement hard, mais hard quand même. Et alors, il y a un problème, c'est de savoir ce qui se passe. Quand on va jusqu'au bout, que ça se passe bien. On pourrait dire que c'est un cas de phénomène saturé. C'est le phénomène saturé par excellence. Puisque vous avez une intuition, une sensation extrêmement forte, qui est indescriptible. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce que, en fait, il s'agit plutôt de ce que j'ai, M. Risky a appelé, je n'ai pas encore eu beaucoup de lecteurs n'ont pas vu ce point-là, mais je crois qu'il est capital, c'est un phénomène saturé et en même temps un phénomène raturé.
Raturé.
C'est un phénomène raturé. Pour de nombreuses raisons, parce qu'évidemment, il y a la caractéristique du phénomène saturé qu'il est en un sens indescriptible par concept, bien incapable de dire exactement, de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Mais une des caractéristiques de l'orgasme, c'est que ça stoppe immédiatement. Il n'y a pas de mémoire. C'est pour ça qu'il faut recommencer. Il n'y a pas de mémoire. Et on ne peut pas le décrire, en un sens, on ne peut pas s'en souvenir. C'est ça qui est étrange. Et que il y a une montée vers un accomplissement absolu de la présence, et il faut faire très attention d'y aller le plus lentement possible. Parce que sitôt que ça arrive, c'est fini. Et ça ne laisse pas de traces. Et donc c'est une expérience en même temps de la temporalité très étrange. Parce que vous savez, le paradoxe du temps, c'est que le temps, dans l'expérience métaphysique, se concentre sur le présent, et que le présent se réduit à l'instant, et l'instant se réduit à rien. Alors, d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe là, de manière exemplaire. Donc là, il y a un problème de la temporalité érotique qui est très difficile. Parce que, en même temps, le moment de l'orgasme, si tout se passe normalement, va être le moment de la fécondation. Enfin, si tout se passe, oui. Bon. Dans le cas simple, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire le moment de la relance de l'histoire. Hein? C'est donc le moment de la disparition du présent, très brutalement, et le moment de la relance d'une génération, c'est-à-dire du temps. Donc, dès ce moment-là, le phénomène érotique est eschatologique. Il est à la fois, et il est double. Il a une double temporalité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il explose dans le temps, et d'une autre façon, il relance le temps. Ce qui fait d'ailleurs que le phénomène érotique est toujours à la fin eschatologique. Parce qu'il attend toujours une confirmation. C'est-à-dire, le phénomène érotique est réussi s'il dure. Mais on ne sait jamais s'il va durer. Donc c'est à la fin qu'on saura. Donc le phénomène érotique est toujours eschatologique. Il ne peut pas tenir dans le présent. C'est pour ça que dans la littérature, il y a un rapport direct entre, si on veut que le phénomène érotique trouve sa conclusion, il vaut mieux mourir tout de suite. Autrement, il va falloir attendre. Il va falloir être dans la situation eschatologique. Donc on ne peut pas imaginer Roméo et Juliette vieillissant dans une maison de retraite. Donc il est plus sage de les faire mourir tout de suite. Et puis enfin, comment il s'appelait l'autre
Qui Quoi
Mais si, ben celui qui a... Qui était suisse. L'amour courtois et tout ça.
Qui est suisse?
Ben oui, il était suisse, celui qui a... Mais oui, vous voyez bien que je vais dire. Pardon? Non, celui qui a expliqué le rapport entre la mort et l'amour romantique, l'amour courtois.
De Rougemont,
il était suisse.
Oui, bien sûr.
Bon, alors là, je veux dire, c'est là que on comprend très bien ce que Rougemont a voulu décrire. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de le comprendre. Mais si on ne pense pas le moment érotique eschatologiquement, alors il faut l'identifier à la mort, parce que c'est la seule façon, si je puis dire, de rendre tolérable le fait que l'orgasme soit un phénomène raturé. Parce que le phénomène saturé, il dure, il est toujours là. On peut en parler, on peut le revoir, le même. Tandis que l'orgasme, non. Alors après, à partir de ça, on peut décrire beaucoup de choses. On peut décrire la jalousie, les perversions, etc. Les perversions, c'est très important parce que c'est ce qui confirme le modèle. Alors, d'où viennent les perversions? Les perversions viennent du fait que l'érotisme est à la fois volontaire et automatique. C'est-à-dire que quand vous mettez en route la chair, une fois qu'elle est en route, elle est en route. Et c'est automatique. Ça commence automatiquement, ça se développe automatiquement, ça va se terminer automatiquement. Vous n'y voulez pas grand-chose. On peut arranger les choses, enfin bon. Mais enfin, on ne peut pas modifier fondamentalement le processus. Et donc, il y a un moment où on se dit la mécanique de la chair suffit. Et on s'imagine qu'avec la mécanique de la chair, on va pouvoir obtenir tous les résultats du phénomène érotique, ce qui est faux. Mais à ce moment-là, les perversions deviennent possibles, la jalousie devient possible, l'esclavage d'autrui devient possible, parce que on se contente de l'automaticité de la chair. Donc là, j'essaie de décrire deux ou trois formes de choses pas bien, en expliquant comment c'est tout à fait logique que ce soit comme ça. Et le dernier moment, c'est la question la question du temps. Ou plus exactement, du fait que les amants ne peuvent jamais savoir s'ils s'aiment vraiment. Parce que, à supposer pour une infinité de raisons. La première, c'est que je ne sais pas ce que l'autre pense. Lui-même ne le sait pas. Je ne sais pas moi-même ce que je pense. Et puis surtout, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas que demain, dans un mois, dans un an, je ne peux pas répondre. Et comment je réagirai si la passion s'affaiblit, etc. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, qu'est-ce que l'autre va faire ? Donc, même dans la meilleure des situations, à un moment donné, à T1, à T10, on ne sait pas. Bon. Donc, il y a une incertitude fondamentale du phénomène érotique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut le répéter. Alors, comment est-ce que le phénomène érotique peut, si je puis dire, témoigner de lui-même ? Ben, il faut qu'il y ait un témoin, un tiers qui atteste que le phénomène érotique fonctionne et dure. Alors, il n'y en a que deux possibilités de témoin. Le premier, c'est l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant n'est là que parce que le phénomène érotique, à un moment, a fonctionné, d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que il ne témoigne que pour un moment. Donc l'enfant va être un témoin, éventuellement un témoin à charge. C'est l'enfant du divorce qui est un témoin à charge, qui est un juge et qui est un accusateur, qui est un témoin à charge. Alors, l'enfant est un témoin de toute façon à charge, parce que pour devenir lui-même, il va falloir qu'il règle les problèmes avec ses parents, ça va être très compliqué, etc. Bon, ben, ça peut se passer bien. Mais l'enfant a une fonction de témoin. Mais c'est un témoin variable qui peut éventuellement être à charge, et surtout c'est un témoin qui est c'est-à-dire qu'il ne peut rien pour les parents. Le propre de l'enfant, c'est celui qui ne peut rien pour les parents. Éventuellement payer leur maison de retraite, mais c'est le maximum qu'ils puissent faire. Puis être gentil de temps en temps, mais c'est tout. Mais de toute façon, il ne peut pas les empêcher de mourir. Le paradoxe, c'est que l'enfant va faire la même chose que les parents, si tout se passe bien. Il va donner la vie. Mais il ne pourra jamais donner la vie à ses parents. Donc, il ne pourra jamais leur rendre ce qu'il a reçu. C'est d'ailleurs pour ça que il s'agit bien entre les parents et les enfants d'un don et pas d'un échange. Un don et pas d'un échange. Donc il n'y a pas de réciprocité entre les enfants et les parents. Il faut bien comprendre ça. Même s'il peut y avoir des dons faits dans les deux sens, on ne peut pas arriver à une réciprocité. Alors remarquez que cette absence de réciprocité, c'est-à-dire les parents donnent la vie aux enfants qu'ils ne la leur rendront pas, mais la donneront à d'autres enfants qui ne la leur rendront pas, etc. C'est le temps. Le temps n'est pas circulaire à cause de ça. Le temps est historique parce qu'il est fondé sur la propagation et non pas le retour. Le temps est circulaire parce que les parents ne veulent jamais recevoir ce qu'ils ont donné de leurs enfants, ce qu'ils leur ont donné. C'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'un monde dans lequel, si je veux dire, d'aventure, la génération ne se ferait plus, sera un monde où il n'y aurait plus de temps. Et il n'y a plus d'histoire, évidemment. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas des enfants et des générations parce qu'il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire parce qu'il y a des générations. Donc, en fait, nous produisons l'histoire, y compris le temps. Ça, c'est... Parce que nous avons une vision du temps, s'imagine, de toute façon, il y aura toujours du temps. C'est, vous voyez, le raisonnement d'un anthropomorphisme grotesque et inversé. N'est-ce pas ? La race humaine va mourir, et puis le monde continuera.
C'est pour ça que quand il y a des écrivains qui disent... ou des penseurs, je ne fais pas d'enfant pour pouvoir réaliser mon œuvre afin qu'elle passe à la postérité.
Oui,
il faut quand même qu'il y ait des gens qui fassent la postérité, quand même, sinon ça ne marche pas, quoi.
Oui, réaliser mon œuvre. Non, mais je veux dire, c'est très important l'idée qu'il y aura un temps du monde sans les hommes. Cette proposition, d'abord, personne ne pourra jamais la vérifier. Si elle se réalise, personne ne pourra jamais la vérifier. Et est-ce que ça a un sens? Alors, les gens qui ont un esprit scientifique, c'est-à-dire naïf, le pensent. Mais ce n'est pas du tout sûr. Ce n'est pas du tout certain. Alors, je laisse tomber la chose. Alors, quel est... Donc, l'enfant est un témoin, c'est un témoin partiel, c'est parce que c'est un témoin qui ne peut témoigner, dans le meilleur des cas, que d'un moment du phénomène érotique. Et donc, il faut un autre témoin, et cet autre témoin ne peut être que Dieu. C'est-à-dire le seul qui puisse être à la fin de la chose. C'est-à-dire, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est le jugement de Dieu à la fin qui est le témoin du phénomène érotique. C'est pour ça d'ailleurs que le phénomène érotique est toujours tenu entre ces deux accomplissements, l'accomplissement temporel, le témoin temporel qui est l'enfant ou la possibilité de l'enfant, c'est pareil, et le témoin intemporel, eschatologique, qui est Dieu. Alors, ce qui est vraiment fondamental dans le phénomène érotique, c'est que il est non conclusif. Il est non conclusif. C'est-à-dire, il n'est jamais accompli. Alors, il n'est jamais accompli et pourtant, il a toujours un commencement. Vous savez, c'est la définition de cette forme d'éternité, la demi-éternité, qui est un phénomène proprement biblique. C'est-à-dire que chez les Grecs, il y a les mortels qui ont un commencement et une fin, et puis les dieux qui sont éternels. Bon, en général, c'est le schéma. Alors, dans la situation judéo-chrétienne, d'une certaine manière, il y a les immortels et les mortels, mais les mortels, en fait, peuvent commencer d'entrer dans l'immortalité à partir du temps. Ils ont une demi-immortalité qui a un commencement sans, mais qui n'a pas de fin. Qui est en gros notre destinée normale. Et le phénomène érotique a cette caractéristique. Il a un commencement, il n'a pas de fin. Et on ne sait jamais comment ça se finit, cette affaire. Alors, il y a plusieurs points adjacents pour le phénomène érotique.
J'ai juste une question pour les points. Est-ce qu'il n'y a pas un troisième témoin, enfin intermédiaire, je dirais, ou peut-être entre l'enfant et Dieu, qui serait ce que j'appellerais la demeure ou la maison, ou on peut dire la demeure. Parce que la fidélité fait que l'on passe d'une centralité intentionnelle, j'aime l'autre, je pense à l'autre, voilà. Puis le moment où on s'installe ensemble, s'établit une demeure où la centralité devient effective. C'est pas simplement l'amour, c'est le fait que désormais ma vie a son point le départ des abscisses et des ordonnées de ma vie se fait à partir de ce centre qu'est la demeure. Et le fait qu'il y a cette vie commune qui s'inscrit dans un temps et que la fidélité inscrit dans le temps fait que c'est aussi un témoignage extrêmement fort, rendu, je veux dire, c'est pas une certitude, bien sûr, mais en tout cas, un lieu, la demeure, ou l'oïkos même, hein, vraiment, comme le lieu où s'atteste aussi l'éros
de
lui-même.
Les anciens combattent pour Aris et Phokis. Pour les feux et les hôtels privés.
Voilà, donc le foyer. Le foyer comme témoin.
Oui, mais enfin, le problème du foyer, c'est que dans la situation actuelle dans laquelle nous vivons, il est toujours provisoire. La plupart du temps, il est provisoire.
Oui.
C'est très rare qu'il le soit, qu'il soit permanent. Et il est le résultat d'eux. Il n'est pas, il n'est pas le garant.
Oui, mais là où j'insiste, parce que c'est un de mes sujets importants, de l'articulation de l'érotique et de l'économique.
Bien entendu.
C'est pour ça que j'ai le foyer. Et que si on le perd, si on le perd,
on l'a perdu.
On est dans, et on le perd parce qu'on est des locataires et des salariés. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème. Il y a un érotisme du combat politique aussi. Mais parce que lutter contre le fait du statut de locataire et de salarié généralisé.
Oui, oui.
Mais la question est la suivante. Si je n'ai pas de foyer, ou si je ne pense pas le foyer comme lieu d'attestation de l'éros, je pense un érotisme sans économie, et donc un érotisme en apesanteur, et je ne m'arrache pas complètement au romantisme.
Bien sûr. Non, mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Mais je veux dire, je le vois plus comme le foyer, comme un indice, un confirmature, que comme un témoin. Un témoin qui puisse garantir. Alors, peut-être que dans un moment civilisationnel, peut-être rêvé, où on n'est jamais locataire, jamais salarié, et qu'on est à son compte, pendant des générations et des générations, au château, ça a un sens.
Mais il y a des témoins, parce que pas l'absence, parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas un témoin, parce qu'on imagine la chose maison, etc. Mais du fait même que dans ce lieu, on puisse travailler ensemble, voire même avec d'autres, et puis que ce soit un lieu d'hospitalité pour les amis, il y a des personnes qui rendent témoignage aussi. Et je crois que cette attestation qui est faite aussi parce que c'est très important de ne pas compenser le couple un peu enfermé avec l'enfant et Dieu, mais aussi avec les amis. Et c'est aussi une attestation de la demeure. En fait, voilà, on vient dans la demeure, on est accueilli parce que la demeure est un lieu de déploiement d'une économie propre, donc qui peut donner et qui peut accueillir. Et enfin bon, voilà, c'était un point de prolongement.
Alors là, vous voyez,
en fait,
la jonction entre mon analyse du phénomène érotique et Heidegger,
habité.
Ça donne au croisement des deux, vous avez Fabrice Hadjadj. Alors, il y a plusieurs thèses adjacentes à cette analyse. Alors, une des thèses qui m'a été, que les gens ont vu et certains ne sont pas d'accord, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule logique de l'amour. Don Juan, Dieu, l'amour sexué, la chasteté, tout ça, c'est la même logique. Il y a une différence de moyens, il n'y a pas une différence de logique. L'univocité de la définition de l'amour. C'est-à-dire que Dieu est un amant, mais c'est un meilleur amant que nous, infiniment. Mais il fait la même chose. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu est jaloux. C'est pour ça que la comparaison du rapport à Dieu, entre Dieu et les hommes, est immédiatement formulée dans des termes érotiques. Qu'il n'y a pas l'amour de Dieu d'un côté et l'amour humain de l'autre. Bon, alors, cette thèse...
Agapé est encore érotique. La charité est encore érotique.
D'ailleurs, l'opposition entre agapé et éros ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas un seul moment où c'est l'un ou l'autre. Éros est parfois... Et donc, Nigren a purement et simplement inventé cette opposition. Bon, c'est un luthérien, c'est normal.
Nigren est un auteur qui a fait Eros et Agapé,
voilà, livre qui est paru dans les années 40 et qui a eu un succès terrible, et tout le monde a opposé Eros à Agapé, on a tartiné là-dessus. Alors forcément je suis allé regarder le livre avec soin. Alors il commence par dire du mal de Saint-Augustin, ce qui n'est jamais bon signe, parce que Saint-Augustin lui pense que il y a une seule logique de l'amour. Mais c'est aussi le cas du pseudo-Denis, par exemple, qui utilise Eros pour définir Dieu aussi bien qu'Agapé. C'est le cas de François de Sales, c'est le cas de Saint-Bernard, c'est le cas de tous les gens sérieux. Parce que c'est une univocité de l'amour, dire qu'il n'y a qu'une seule logique de l'amour. Il y a une seule mélodie, on peut la jouer avec différents instruments, alternativement ou tous ensemble, faire un solo ou des tutti. Mais il y a plusieurs instruments, il y a plusieurs orchestrations possibles, mais c'est la même mélodie, avec des moments nécessaires. Donc ça, c'est ma thèse. Et Saint-Augustin insiste beaucoup sur le fait que les différents mots en latin pour dire amour, c'est-à-dire dilectio, amor, et puis agapé, sont synonymes. Alors, il fait de très belles analyses sur, par exemple, les trois, quand le Christ dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» Le grec dit tantôt « agapein » et tantôt « philein ». Et c'est intéressant que...
En fait, c'est même Pierre, c'est Jésus qui dit toujours... est-ce que tu m'agapes ?
Oui.
Et Pierre répond, je te filie.
Oui, c'est absolument. Et donc, c'est, alors, Saint-Augustin insiste sur le fait que s'il y avait une vraie opposition, on la verrait ici et elle serait en sens inverse. Bon, alors, mais ça pose une question plus fondamentale. Non seulement, je crois que dans la description phénoménologique, la mélodie de l'amour est toujours la même, quelle que soit l'orchestration. Mais plus radicalement, il faut que ce soit ainsi. Car la divinisation suppose que, pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, tiennent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ? Formule magnifique de saint Athanase. Parce qu'il y a un moment où l'homme va jouer divinement bien la musique. Donc il va, si je puis dire... comme dans les romans de Pan, vous savez, où les œufs, trucs, vous avez la chose, puis à un moment, elle s'enclenche sur le fil qui tourne. Donc quand vous montez dans la cabine est stable, elle ne bouge presque pas, parce qu'elle n'est pas enclenchée sur le câble. Mais une fois que vous êtes enclenché sur le câble, bon, vous partez. Bon ben. Dans l'incarnation et la rédemption, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, d'un seul coup, va être enclenché sur la logique divine et va faire humainement des choses divines. Ce jour-là, il est absolument divin, comme Federer quand il joue bien. Divin. Bon. C'est-à-dire, l'homme va jouer comme seul Dieu joue. C'est pour ça qu'on va dire de l'homme, c'est d'un dieu, au sens que j'y disais la dernière fois. Bon, la divinisation suppose qu'on fasse quelque chose comme Dieu. Il faut donc qu'on se livre au même exercice. Et cet exercice, c'est d'aimer. C'est pour ça que je mets des réservations sur l'analogie de l'être. Je suis persuadé qu'il y a une analogie de l'être, bien entendu. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas parce que nous sommes, avec un certain rapport avec la manière d'être de Dieu, que nous allons être divinisés et sauvés. C'est parce que nous allons aimer comme Dieu aime et que l'amour, c'est Dieu, réciproquement. Et donc, c'est ça qui va nous diviniser. Donc, il faut que l'amour soit univoque. Si l'amour n'est pas univoque, ça, nos efforts, c'est très bien, c'est pour faire joli comme Dieu, mais c'est bien loin. C'est pas, ça ne permet pas une divinisation. Il faut qu'il y ait une identité. Bon. Cette identité, elle est dans la manière d'aimer. Et donc, elle est charnelle. Donc, tout ceci est très logique. Mais il faut, bien entendu, que le phénomène érotique soit univoque. Évidemment, quand on oppose les amours humaines et l'amour de Dieu, on est mort. Alors la conséquence, attendez, il faut entrer dans les conséquences. C'est que la conséquence, c'est sans doute que la chasteté est érotique. Or, ce paradoxe, la chasteté est érotique, et n'a de sens qu'à l'intérieur du phénomène érotique, il se trouve que les pères, qui n'étaient quand même pas des couillons, l'expliquent très bien. Tous les traités de la virginité insistent sur ce point. La chasteté et la virginité, c'est tout aussi inclus dans le phénomène érotique. D'ailleurs, on peut même dire qu'il n'y a pas d'érotisme sans de la chasteté. Que, d'ailleurs, l'érotisme, qui est toujours sélectif dans ses partenaires, comme on dit, induit immédiatement. C'est-à-dire, si vous êtes amoureux, vous allez devenir extrêmement chaste. Évidemment. Donc, il y a de nombreuses oppositions qui sont totalement dommageables et simplement fausses.
Et d'ailleurs, le discours des mystiques est un discours amoureux, et voire même avec un discours érotique par excellence. Enfin, Thérèse d'Avila,
bien entendu.
Thérèse de Lisieux même, Madame Guyon.
C'est évident. Je veux dire, c'est pourquoi c'est cette idée qu'il y a plusieurs amours, l'amour égoïste, charnel, pas bien, et puis l'autre, bien, etc. Ça n'a aucun sens. Mais, soyons clairs, beaucoup de difficultés dans la vie spirituelle ou dans la vie de l'Église viennent de ça. C'est-à-dire, ou bien ceux qui pensent que... parce que les gens qui quittent une vie consacrée pour comme ils disent, se marier, ils se trompent deux fois. Ils sont trompés une première fois, puis ils se trompent une deuxième fois. Ben oui. Et ceux qui disent, la vie, une vie vraiment consacrée, c'est pas possible parce que moi, etc. Mais ils se trompent aussi, de la même manière. Donc, il faut faire très attention.
On peut prendre quelques questions. Alors, s'il y en a. Alors, Jean-Paul.
Oui, mais j'aimerais revenir sur une de vos affirmations essentielles. C'est qu'on ne sait, pas, il n'y a pas d'évidence érotique. Les amants ne peuvent jamais savoir s'ils s'aiment vraiment. Il y a toujours une incertitude fondamentale. Alors, j'ai envie de vous dire, mais ça ne correspond pas à mon expérience. Je veux dire par là que je sais, je ne dis pas que je l'ai su dès le début, mais je sais que ma femme m'aime et je sais que j'aime ma femme. Mais je ne suis pas capable d'en produire la moindre certitude. Mais moi, je pense qu'il y a une évidence érotique et je n'ai pas besoin d'attendre la fin des temps, le jugement de Dieu pour le savoir. J'ai l'impression de ne pas avoir besoin de témoins.
Bah écoutez, bravo.
Mais je, que je veux dire par là.
Oui, mais j'entends bien.
Comme un témoignage.
Hein. Oui, oui. Non, mais j'entends
mais
bien.
Comme une affirmation philosophique, peut-être.
Non, mais je veux dire, j'entends bien, en un premier temps, donc, admiration envieuse.
ça ne m'intéresse pas.
Mais je comprends ce que vous dites. D'une certaine manière, il y a un moment où, en fait, on sait que c'est sur les rails. Mais on n'en a jamais la certitude absolue. Parce que l'avenir ne nous appartient pas.
Non, on a une modalité de certitude qui n'est pas la certitude scientifique. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas... Oui, bon, mais on peut même parler de quelque chose qui est de l'ordre d'une certitude, mais qui n'est pas la certitude...
C'est pas une certitude épistémologique.
Voilà.
Oui, mais c'est ça le point qui est capital, parce que il y a toujours le fantasme d'être absolument certain que dans l'école des femmes, Arnolf, ça s'appelle bien Arnolf, hein, a éduqué Agnès de telle manière qu'il soit certain
qu'elle
ne trompera pas parce qu'elle n'a pas les informations qui lui permettent, elle n'aura jamais eu les informations permettant la possibilité de le tromper.
Mais c'est pas un problème la tromperie, ça ne remet pas en question les races.
Ça dépend, quand même, faut pas charrier.
C'est pas une vraie objection.
Ça peut ne pas être une objection définitive. N'exagérons rien quand même. Non, parce qu'il y a toujours, dans le phénomène érotique, dans la fidélité érotique, etc., il y a toujours un phénomène de... c'est comme quand vous faites un sprint, transition, il y a...
Tentative de fuite.
Dans la dernière ligne droite, les toxines montent et vous pouvez ne plus tenir le sprint jusqu'au bout dans le 400 mètres. À 380 mètres, vous n'allez plus pouvoir faire les 5 derniers pas parce que ça, c'est physiquement impossible. Et donc, il y a dans la fidélité un phénomène d'épuisement. Parce que c'est... De certaine manière, il faut tenir le rythme, il faut que ça accélère. Quoi, je veux dire. Et donc, on peut toujours... rester les bras en croix, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est la tentative. Mais le point essentiel, pour moi, c'est vraiment que j'ai découvert sur le tard en faisant ce livre. Enfin, je veux dire, c'était pas aussi clair. Ça m'a mis du temps. C'est qu'il n'y a qu'une seule manière d'aimer. Il n'y a qu'une seule logique. Les philosophes écrivent des logiques. Eh bien, l'érotique est une logique. C'est pas la logique formelle, c'est pas la logique de l'être, c'est une autre logique. Il y a des logiques selon les ordres pascaliens. Je pense qu'il y a une logique des corps, il y a une logique de l'esprit, qui est la logique, ce qu'on appelle la logique, puis il y a une logique érotique.
Mais juste pour reprendre cette idée qu'il n'y a qu'une seule logique, à ce moment-là, on pourrait aussi s'intéresser à ce qui est dit à propos de l'amour de Dieu. Or, chez les mystiques, il y a une distinction très nette. On le voit par exemple chez Thérèse d'Avila. Il y a une certitude de la foi. Thomas d'Aquin dit, parce que la foi, ayant son siège dans l'intelligence, elle contient une forme de réflexivité. Mais il n'y a pas de certitude absolue d'avoir la charité. Ça, c'est une chose qui est souvent un discours constant, chez Thomas d'Aquin, parce que la charité n'a pas cette réflexivité de l'intelligence, son siège est la volonté, donc elle est tournée vers... Ouais. Alors, il y a des indices qu'on a la charité, il n'y a pas de l'idée, il peut y avoir des indices forts. Il peut y avoir le cas exceptionnel de la confirmation en grâce, qu'a par exemple François d'Assise, mais la confirmation en grâce est toujours adjointe à des croix extrêmement sévères. C'est aussi la grande tradition de la lecture mystique. Mais il n'y a pas... Et Thérèse d'Avila a des pages magnifiques dans Le chemin de la perfection. Alors, livre que vous devez tous lire, qui est un chef-d'œuvre de la littérature, de la pensée, de vérité aussi. Enfin bon, c'est bien. Mais elle dit que sa grande souffrance d'être encore ici-bas et qui fait qu'elle meurt de ne pas mourir, c'est de ne pas être assurée de son propre amour. Et elle insiste là-dessus. Alors, c'est Thérèse d'Avila, quand même. Donc, moi, je pose la question. Attention, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Non, non. Non, mais attention. Elle est assurée de la foi, mais pas de l'amour. C'est ça, le paradoxe. Donc, il y a un aspect de certitude, parce que c'est, la foi, c'est quand même la foi en Dieu, donc c'est une dimension de l'amour, d'une certaine façon. Mais elle n'est pas assurée de dire « j'aime ». Et celui qui dirait « je suis sûr d'aimer » ou « je suis sûr d'aimer » donc « assez », Kierkegaard disait toujours « je n'aime pas encore ». Bon, enfin... Ou...
Non, c'est, je crois que, c'est, je crois que cette distinction est très bonne. Je veux dire, je peux avoir confiance dans mon propre amour, avoir confiance dans la volonté de l'autre de m'aimer, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'ai vraiment aimé? Est-ce que j'aimerais vraiment à la fin? Est-ce que j'y arriverais vraiment? Ça, je n'en sais rien.
Mais une chose est de dire, est-ce que j'ai suffisamment aimé? Ça, je vous suis. Mais autre chose est de dire, je ne sais pas si j'aime. Non. C'est quand même pas la même, les mêmes propositions.
Mais il y a des gens qui se séparent alors qu'ils pensent qu'ils s'aiment toujours. Mais de fait... ils ne s'aiment pas suffisamment ou assez pour que ça tienne. Et ils peuvent être sincèrement convaincus qu'ils le voudraient toujours. Moi, je pense que cette distinction est juste.
Je ne sais pas si ça peut mettre l'éclairage, parce que j'ai aussi une question, enfin, une objection. Et c'est... Dieu se trouve, peut-être que je me trompe, mais de la manière que j'ai compris, Dieu se trouve à la fin comme témoin eschatologique. Donc tout le système est basé sur une grande méfiance. Et s'il se trouve au départ, et si on met comme témoin le maire? Donc, dans mon sens, le maire est trop passagère, il a dit parler très vite et laisser le prophète. Mais je pense que s'il y a une méfiance qui se développe, c'est ou bien parce qu'à un moment donné, je pose la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas aimée autant par les autres que j'étais par ma mère? Donc, c'est une première expérience de l'amour.
Oui. Je comprends ce que vous dites.
Ça est preuve que je suis aimée. À un moment donné, je teste l'amour de mes parents, je teste la question de mon existence même, et la question est-ce que Dieu m'aime ou même est-ce que Dieu existe?
Je comprends votre question, mais moi, je ne suis pas parti d'une expérience originaire où je savais que j'étais aimé, en particulier l'amour des parents et l'amour de ma mère en particulier. Pourquoi? Pourquoi ne pas partir de ce présupposé, de cet acquis presque normal, positif? Alors, premièrement, parce qu'il y a des cas où justement on part avec un déficit de l'amour maternel, de l'amour parental, etc., qui était l'origine du trauma. Bon, c'est pas toujours le cas, mais de toute façon, l'amour avec les parents, au moment où le phénomène érotique intervient dans votre existence, c'est le moment aussi de la rupture avec les parents. Donc, l'inévitable rupture avec les parents. Donc, les deux phénomènes coïncident. Ça, c'est les considérations anthropologiques. Donc, je ne voudrais pas partir de ce qui était, dans l'enfance, en un sens, non érotique, une garantie, un amour déjà présent, positivement, puisque c'est justement ça dont on va sortir au moment de l'adolescence. Donc, là, il y a une rupture, je ne vais pas... Je commence avec cette rupture, l'analyse. Et d'autre part...
Mais s'il n'y a qu'une seule logique de l'amour... comment pourrait-il y avoir absolument rupture? Et comment est-ce que l'amour des parents ne serait, relèverait pas de, aussi de la même logique sur laquelle embrayerait la logique érotique, enfin pour
reprendre... Parce que justement il y a la relance générationnelle, c'est-à-dire quand j'entre dans le jeu érotique, je suis un point de départ. Et c'est seulement après que je vais pouvoir peut-être revenir au début et le comprendre autrement. Mais il y a un moment où je suis à point de départ, donc là je suis en rupture. Puis la deuxième chose, c'est que quand on fait une analyse phénoménologique, je suis contre les phénoménologues qui en ce moment ne veulent plus faire des réductions. Enfin, je pense que c'est mortel. Il y a de la phénoménologie quand on fait de la réduction. Donc il y a une réduction érotique, et la réduction érotique suppose de sortir de l'attitude naturelle. Et l'attitude naturelle, c'est justement le déficit de l'amour de soi que l'on veut compenser par l'amour d'autrui. C'est ça l'expérience naturelle. Je dirais que c'est l'expérience de l'adolescence. Dans l'adolescence, je cesse de m'aimer, enfin je m'aperçois qu'il faudrait que je m'aime, je prends conscience de la question que si mon existence seule ne suffit pas à se justifier, qu'il faut que cette existence soit aimée. Et que moi, je ne l'aime pas, mon existence à moi. Pas assez, du moins, pour la justifier. Donc, je veux que d'autres la justifient pour moi, et de quoi donc d'autres m'aiment. Ça, c'est l'attitude naturelle, qui est la violence, la source de la violence. Je pars de cette attitude naturelle. Et la réduction phénoménologique est branchée là-dessus. Elle est branchée sur l'expérience du déficit. Que de toute façon, même si c'est une erreur de jugement, c'est une erreur de jugement par laquelle nous passons tous, me semble-t-il.
C'est pas seulement une erreur de jugement, parce que je pense, en repensant à ce que tu dis, Michel, je pense au livre de Romain Gary, La promesse de l'aube, où on a une mère qui a un amour immense pour son fils. Alors absolument sans déficit. Peut-être que le déficit, c'est le déficit du père, mais enfin bon. Mais il n'y a pas de déficit. En fait, c'est même imposant, enveloppant, engageant, puisque le fils doit devenir Victor Hugo. Enfin, sa mère lui dit, tu seras Victor Hugo, tu seras président, tu seras bon. Et alors, elle ne cesse, et il est porté par ça. Mais en fait... cet amour même de la mère va être vécu par Romain Gary comme un déficit. Parce qu'à un moment, il va vouloir de la femme, d'ailleurs, ce qu'elle ne peut pas lui donner, c'est-à-dire un amour, ce même amour de type inconditionnel que la mère lui a donné. Et ce qui est fou, c'est que si fortement qu'on soit aimé par nos parents, et moi je l'ai vécu, j'ai une mère juive et un père juif, bon... je crois qu'on est à cause de la relance générationnelle, enfin le fait que tout d'un coup c'est une femme qu'on a en face de nous, eh bien il y a une sorte d'ambiguïté ou d'équivoque qui peut faire ressentir à l'inverse un déficit.
Oui, l'amour maternel peut être vécu comme l'exigence que moi tout seul comme un grand je trouve par moi-même sans ma mère l'équivalent.
Il est à la fois constitutif, ça c'est certain, c'est vrai. Mais dans ma constitution, il me rend apte encore plus à ressentir un faible pour l'autre, pour la femme, et à être en situation de déficit.
C'est certain, nous avons tous cette expérience. Qu'est-ce que pour moi, c'est le rupture même, c'est trop radical, parce que même si je décide qu'il y a rupture, dans mon conscience, il y a toujours qui va et vient. Je ne m'aime pas comme elle. Ou bien, j'ai jamais reçu ce que j'ai voulu avoir. Il y a toujours une image de ce que doit être la mère. Il y a une projection dans nos vies de ce que j'ai vécu comme enfant, ce que je dois vivre, ce que je dois recevoir. Est-ce que c'est vraiment possible de se déraciner de manière si radicale que vous proposez?
Ben écoutez, je répondrai de manière biaisée. Je n'ai pas besoin de l'hypothèse de l'amour maternel pour décrire le phénomène érotique. En un premier temps. Comme disait Napoléon, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. Je dis que le moment de l'adolescence, qui est en certaine façon l'entrée dans le phénomène érotique, est justement le moment où on croit pouvoir mettre ceci entre parenthèses. C'est mon histoire qui commence, mon histoire à moi et publique, et elle se fait par une mise entre parenthèses de l'épisode familial et de l'enfance. Alors, ça revient après, naturellement. Mais il y a un moment où ça se passe comme ça. Et c'est vrai que les grands récits amoureux sont des récits sans la mère.
Sauf chez Proust.
Oui, quoi que ça se discute, hein, parce que Swann, par exemple, hein, Swann, il n'y a pas de mère. Et le narrateur, en un sens, il n'y a pas d'amour. Oui, c'est donc entre la mère et la grand-mère, et la servante au grand cœur. Bon. Donc, voilà ce que serait ma réponse. Une description phénoménologique, c'est limité. Hein.
Non, mais pourquoi je disais Proust ? Parce que mon idée, c'est que justement, l'homophilie est peut-être une tentation d'un érotisme sans rupture, c'est-à-dire sans la relance générationnelle, et qui reste complètement enraciné et dépendant de l'amour maternel. Il y a eu des explications comme ça.
Non, mais c'est le grand problème de l'homosexualité, c'est que elle chante la relance maternelle, la relance générationnelle. Et en fait, d'ailleurs, même pas, puisque on veut aussi l'adoption, etc. Bon, elle n'admet pas la dimension eschatologique du phénomène érotique. D'où la frustration et éventuellement la violence.
Est-ce qu'il y a... on peut continuer encore, hein, si Michel, tu as quelque chose à dire. On peut prendre encore une question, s'il y en a. Sinon, on peut... Oui, Laure.
C'est une question pour revenir au phénomène érotique spirituel. Et c'est la question de la mère qui a pensé à ça. C'est-à-dire que dans la relation avec Dieu, Dieu aime le premier et il aime le dernier aussi. Enfin, et nous, on est englobés dans cet amour. Et c'est même lui qui nous donne la grâce de lui donner notre réponse. Et du coup, je voulais savoir comment vous voyez cette réponse de la créature qui finalement n'est qu'une. Enfin, dans le phénomène érotique de l'homme à la femme, vous parliez de deux chairs qui se rencontrent et de la chair qui ne résiste pas. Nous, est-ce qu'on n'est qu'une chair ouverte qui ne résiste pas à l'amour, ou est-ce qu'on a une réponse à donner à Dieu ? C'est que du don sans échange, comme la relation de la mère à
l'enfant. Oh là là, c'est beaucoup de choses. Hein. Non, d'abord, le fait de ne pas résister, le fait de ne pas résister pour la chair, c'est une réponse. Hein. Ce n'est pas une passivité. C'est une réponse positive. C'est quand elle résiste qu'elle ne répond pas. Donc c'est quand elle ne résiste pas qu'elle répond. Encore une fois, le concept d'ailleurs d'activité-passivité, d'opposition activité-passivité, est tout à fait dans le domaine érotique et même dans le domaine intellectuel et très sommaire. Ça vaut pour les choses du monde. On peut faire la distinction. Donc là, c'est évident. De la même façon, le rapport entre l'appel et la réponse est tout à fait bizarre, puisque je rappelle cette règle. L'appel est premier, mais le contenu de l'appel ne se lit que dans la réponse. Parce que l'appel, d'une certaine manière, ne dit rien. On peut discuter pour savoir qu'est-ce que l'appel disait. D'où vient l'appel ? Est-ce qu'il y a eu un appel ? toutes les discussions sur les voies de Jeanne d'Arc, mais toutes les discussions sur une vocation, j'ai ressenti un appel, j'en suis certain. Le propre de l'appel, c'est qu'on ne sait pas s'il y en a un, on ne sait pas qui il est anonyme, on ne sait pas son contenu, etc. Donc l'appel, en un sens, fait tout, mais ne dit rien. Donc l'appel, on voit ce qu'il voulait dire dans la réponse. Et c'est vrai, mais à un niveau même non spirituel. L'appel du 18 juin, un, personne ne l'a entendu. Deux, on n'a pas le texte. Et troisièmement, c'est un événement considérable vu les réponses qu'il a obtenues. Bon, ça c'est la définition d'un appel. L'appel du 18 juin, personne ne l'a entendu. Et le texte qui a été placardé n'est pas celui de la chose. Et on n'a pas l'enregistrement. C'est bien. Ça c'est un appel.
Donc, mais c'est la résistance qui est la réponse.
Exactement.
Ah là.
Oui, oui. Non mais. La résistance, oui bien sûr, la résistance. Et donc il y a le fait qu'il y a des gens qui se sont alliés. Donc c'est ça le... Alors que l'appel du 17 juin, je veux dire celui du maréchal, tout le monde l'a entendu, on sait ce qu'il y avait dedans. Et,
on savait très bien ce qu'il fallait faire.
Oui, et finalement, ça a été un flop historique. Puisque un an après, il avait perdu l'opinion publique en France. Il fallait le faire quand même. Donc, c'est tout à fait remarquable que. Donc, vous voyez, il faut faire attention quand vous faites des oppositions comme ça. Il faut toujours faire une réduction.
Mais la question, c'est quelle est la place de la chair dans la réponse de la religieuse?
Ah ben.
En quoi sa chair s'ouvre-t-elle?
Ben écoutez, alors ça, premièrement, il faudrait lire les traités de la virginité et les traités sur la chasteté. Ce que je n'ai pas fait, et je n'ai pas fait la théorie de la chose. Mais je pense que le désir de Dieu est un désir charnel, évidemment. Je ne pense pas. Je pense, d'autres termes. Je pense qu'il n'y a pas de distinction réelle entre le spirituel et le charnel. C'est-à-dire que quand un désir spirituel est suffisamment fort, il est charnel. Et je pense qu'un désir charnel ne reste un désir que s'il est spirituel. Donc ces distinctions-là, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une mauvaise distinction. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est pas seulement des métaphores. Hein. Les métaphores érotiques et sexuelles, c'est pas des métaphores, c'est des réalités. Qu'est-ce qui manque à la pornographie ou à la prostitution pour être érotique? Il demande un vrai désir, individualisé, individualisant, etc. Il manque la spiritualité du désir. Donc on ne peut pas séparer les deux.
Alors juste, on va, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause pour reprendre la suite. Je prends juste la question de Henri, voilà.
Oui, juste une petite remarque. Est-ce qu'on peut passer d'une mélodie à l'autre dans l'amour, ou de la même mélodie jouée par un autre instrument, et pour aller dans cette idée de logique unique, est-ce qu'on pourrait dire que Don Juan est le candidat idéal à la vie monastique et à une haute spiritualité?
Dans Molière, il dit qu'il va rentrer au couvent, hein, le dernier acte.
Oui, mais vous le prenez
au sérieux? Écoutez, je sais pas.
C'est Elvire. Hein, qui...
Bon, mais je veux dire. En un sens, quand Don Juan fait l'amant, c'est-à-dire se comporte comme s'il aimait, il est dans une attitude très juste. Ce que je lui reproche, c'est qu'il ne tient pas la distance. Mais prendre l'initiative de faire comme si on était amoureux, prendre ce risque, c'est la caractéristique de Dieu. C'est-à-dire que la décision de Don Juan de se comporter comme un amant transforme les femmes en amante possible. Ça, donc il y a un pouvoir créateur comme Dieu qui nous aime avant que nous soyons.
Mais qu'est-ce que vous faites du comme si?
Oui, c'est ça.
Ah ben, le attention, le comme si, c'est la définition de la liberté. La liberté, nous ne savons pas si nous sommes libres, puisqu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous explique que nos décisions les plus libres sont en fait gouvernées par un déterminisme que nous ignorons. Bien. Alors, il y a toujours des gens pour nous répéter ça. Alors, la bonne réponse à cela, c'est de dire, je ne suis peut-être pas libre, mais je peux faire comme si j'étais libre.
Et même je dois faire comme si.
Oui, donc faire comme si, c'est exactement la définition de la liberté. Je fais comme si j'avais pas peur. Alors, je suis mort de peur, mais je vais faire comme si j'avais pas peur, donc je saute.
Dans votre exemple de Don Juan, le comme si, ça peut être aussi autre chose, c'est qu'il n'aime pas.
Mais attendez. Lorsque je me déclare, je fais comme si j'aimais, mais je ne sais pas encore si je vais vraiment aimer. Bon, bien entendu, le comme si peut déboucher sur un mensonge, mais peut déboucher sur une réalité.
Et qu'on connaît tous très bien.
Quoi,
excusez-moi, le mensonge. Le comme si du mensonge.
Non, mais moi je pense que quand on fait comme si on aimait, on ne sait pas encore si on aime, si on va aimer ou si on ne va pas aimer. Ça dépend un peu de la réponse de l'autre.
Quand vous parlez que dans son cœur, là,
pardon ?
Vous ne parlez que dans son cœur. Si vous dites quand on fait comme si, c'est simplement parce qu'on ne sait pas encore si on va aimer. Les êtres humains ne sont pas tous des enfants de cœur, et il y en a un certain nombre
qui
font comme si en sachant qu'ils n'aiment pas.
Oui, bah alors ils font pas comme si. Dans ce cas-là, ils font pas comme si. Ils savent très bien qu'ils vont séduire et ne pas être des enfants de cœur. Et donc ils vont trahir. Bon, ça, ils le savent dès le début.
Il y a une distinction entre faire comme si et faire semblant.
Oui. Et je veux dire, vous décrivez le cas de celui qui fait semblant, le séducteur de robots populaires. Bon, d'accord. Du samedi soir, très bien. Mais celui-là, il sait très bien ce qu'il fait. Il fait pas comme si. Comme dit très bien Fabrice, il fait semblant. Non, je veux dire, quand quelqu'un commence une histoire, comme on dit, se lance un peu, il fait comme s'il allait aimer. Il ne sait pas s'il aime, s'il va aimer.
Comme si c'était pour toujours,
d'ailleurs. Oui, exactement, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi... un point que j'aime, sur lequel j'insiste, on ne peut aimer qu'en disant c'est pour toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aime et qu'on dit je t'aime, c'est pour toujours. Mais si vous dites à quelqu'un je t'aime pour la semaine qui vient, c'est si vous voulez dire je t'aime pas. Donc il y a une on fait comme si c'était pour l'infini. L'amour requiert l'infinité. Et, alors, on n'est évidemment pas sûr qu'on peut le dire. C'est pour ça qu'on hésite à dire « je t'aime ». Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des sentiments. C'est parce qu'on sait bien qu'il faut beaucoup plus. Il faut le dire absolument. Donc, on est toujours dans le « comme si ».
C'est une petite chère remarque sur
les liaisons dangereuses. Oui.
Et le jeu « libertà » peut mal finir. Oui. C'est-à-dire le « libertà » peut...
Ben oui, c'est dramatique. Il peut être piégé, le pauvre.
Il a fait semblant.
Il a fait semblant, et comme si. Alors, pour la question du comme si aussi, il faut bien comprendre que le phénomène érotique a un côté inévitable. Que même celui qui ment, qui fait semblant, le Don Juan de Bazar, etc., ne peut pas éviter. Le phénomène érotique vous met devant la possibilité du contrat suivant. Le diable, Méphisto, vous dit « Je vais te donner une vie éternelle où tu auras tout ce que tu veux. Rien ne te sera refusé. À une condition. Je ne te demande pas ton âme, tu n'en as pas, ça ne m'intéresse pas. Non. » Tu renonceras à une seule chose. Tu ne seras jamais amoureux et personne ne sera jamais amoureux de toi. Question. Qui est-ce qui accepterait de lire ça, de ce deal-là? C'est-à-dire, vous serez érotiquement châtré. Vous pourrez copuler tant que vous voulez, et ce n'est pas là. Mais vous n'aimerez jamais, vous ne serez jamais aimé. Tout le reste, vous l'aurez. Eh bien, moi, j'attends quelqu'un qui me dise « chiche ».
En même temps, on peut dire qu'on ne cesse de le dire tous en tant que pêcheurs.
Mais je veux dire, la vie augmentée, tout ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve déclaré, le but déclaré. Bah, en fait, si on vous le propose vraiment, quand même beaucoup hésiteront. Et donc le phénomène érotique, c'est à ce sérieux-là. Alors, on comprend mieux la question du comme si ou du aimer pour toujours. Je veux dire.
Vraiment, alors la toute dernière, parce que sinon on prend.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que. Je pense ici au passage de la séquence de la Pentecôte, de Béni Saint-Esprit-Tous, où il y a un passage qui dit il n'y a rien en l'homme innocent. Est-ce qu'on peut dire que le comme si est un moyen d'à la fois reconnaître le fait que je ne vais pas produire moi-même un amour qui soit véritablement inévitable et qui pourtant me permet d'adhérer librement à une possibilité qui me dépasse et qui, elle, est certaine.
Je ne le dirais peut-être pas comme ça, mais oui, ça peut peut-être le dire comme ça. Non, mais je veux dire, sur la question du als-op, du comme-si, il y a toute une tradition philosophique, et en fait, le als-op remonte à Kant, qui l'emploie.
Non, à Saint-Paul.
Oui.
User du monde comme si vous n'en usiez pas.
Sur la question de la liberté, remonte à Kant, sur le « je suis phénoménalement non libre, mais nominalement libre », et peut-être en un sens à Descartes. Donc c'est une vieille histoire, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas seulement un langage en fond de cœur.
Non, mais Saint-Paul dit quand même, même ayez une femme comme si vous n'en aviez pas.
C'est vrai.
Et la dimension de ce comme si, c'est un lieu décisif de la vie chrétienne qui généralement n'est pas pensée. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu fondamental à penser le comme si, non pas comme mensonge, mais comme l'attitude même du chrétien selon Saint-Paul.
Oui,
mais quel est ce comme si?
Voilà, c'est directement.
C'est.
Alors que là, c'est un comme si à propos de l'amour.
Absolument.
Oui. C'est l'inverse. Mais en même temps.
Oui, mais il y a un point commun, c'est que dans les deux cas, c'est lié à la dimension eschatologique des choses. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je dois faire assumer la possibilité de l'amour en disant comme si? Parce que si l'amour est ce que j'en dis, alors il est infini et il est eschatologique. Et devant l'eschatologique, je ne peux faire que comme si j'y étais. Je ne peux pas dire j'y suis. L'amour infini, je peux faire que comme si. C'est-à-dire ne pas fermer la possibilité. Je dirais que je ne suis pas certain que ce soit si une telle opposition.
On va faire une pause. On aura que 35 minutes pour parler de sport. Ça suffit, hein, ça fait une manche.